jusqu'à 10h. Et à la technique, c'est Nicole que l'on retrouve après un mois d'absence. Au programme de cette heure consacrée au livre, à la littérature, eh bien, on va commencer par la crème du crime avec Patrick Vast, qui maintenant viendra tous les 2 mois et nous présentera 2 chroniques. Et donc, Patrick, tu vas nous présenter quoi aujourd'hui? Bonjour Patrick.
Bonjour. Alors, eh bien, aujourd'hui, je présente 2 grandes dames du polar, l'américaine Patricia Highsmith et la française Catherine Harley.
Très bien. On dira quelques mots aussi sur un festival de Monsieur le Comte et la Fabulerie qui aura lieu à Roust-Varandin, près de Douai. Et on fera un petit détour dans le sud avec la chronique de Judith Aragonès qui nous présentera de façon générale la Catalogne. Et puis, on reçoit aujourd'hui Hervé Leroy, que vous, auditeurs, auditrices de Radio Plus, connaissez certainement, qui est déjà passé ici à Radio Plus. C'est donc Hervé Leroy qui nous présente aujourd'hui ces gens du Nord qui ont fait l'histoire. Et c'est chez le Papillon Rouge éditeur. Et donc une 50aine de personnages, de personnalités du Nord et du Pas-de-Calais réunies dans ce livre. Et donc il nous présentera ça dans quelques instants. Et bien donc maintenant je me tourne vers Patrick Vast qui va nous présenter donc Patricia Highsmith.
Oui, amis du polar, de la noire et du thriller, bonjour Patricia Highsmith. Patricia Highsmith est née à Fort Worth, Texas, le 19 janvier 1921 et nous a quittés le 4 février 1995 à Locarno, Suisse. Ainsi, notre Texane a-t-elle achevé sa vie au pays du chocolat après une carrière de romancière bien fournie. Les romans de Highsmith ont été souvent qualifiés de polars psychanalytiques. On ne sait s'ils se rattachent à l'école freudienne plutôt que lacanienne ou l'inverse, mais il est vrai qu'elle s'est plu, tout au long de ses récits, à disséquer ses personnages autant que leurs péripéties, évoluant tranquillement, doucement même par petites touches, pour mieux creuser les méandres de ses intrigues. Patricia Highsmith est liée au monde du cinéma et tout particulièrement à un certain Hitchcock, puisque c'est lui qui a réalisé un film à partir de son roman datant de 1950, L'inconnu du Nord Express. Ce fut sans aucun doute la rencontre de 2 monstres sacrés du suspense avec cette histoire de 2 meurtriers s'échangeant leur forfait. Personnage torturé, glauque ou machiavélique, Highsmith a tout tenté pour produire des phénomènes tel un certain Ripley. Ripley au plein soleil et une fois encore la rencontre avec le 7e art et plus particulièrement un réalisateur français du nom de René Clément. C'était en 1960 et Alain Delon, Maurice René et la regrettée Marie Laforêt étaient de la partie pour un duel au soleil. Mais les aventures du sieur Ripley ne se sont pas cantonnées à ce film. Il a sévi plusieurs fois à travers les romans de Highsmith et cela de 1955 à 1991. Elle a sans aucun doute inspiré les réalisateurs français puisque Claude Chabrol a produit Le cri du hibou avec Christophe Malavoy et Mathilde Amé, transposant l'intrigue du roman dans la ville de Vichy pour une histoire de voyeurs et de voyeurisme envoûtante. Notons encore « Dites-lui que je l'aime », adaptation de ce mal étrange par Claude Miller, avec Gérard Depardieu, la regrettée Dominique Lafin et l'inénarrable Claude Pieplus, un roman prenant comme le film « Quand l'obsession tourne au délire le plus implacable ». Ses réussites cinématographiques n'excluèrent, bien au contraire, d'autres œuvres comme « Ces gens qui frappent à la porte » sur les dérives religieuses extrémistes et le poison insidieux que cela peut introduire dans une famille jusqu'au pire qui puisse se produire. Ou encore la cellule de verre racontant la descente aux enfers d'un homme accusé à tort et incarcéré dans des conditions épouvantables. Comment ressortira-t-il d'années passées en prison où il a été malmené, torturé, où il a même été amené à tuer ? Un roman dense et dur sur l'univers carcéral, mais aussi la réinsertion toujours improbable et une fin qui ne se veut pas forcément morale, mais à les savoir. J'étais marqué par le passé par le roman « La rançon du chien ». Je l'ai été tout autant par sa relecture. Un homme mal dans sa peau, mal dans sa tête, kidnappe le chien d'un couple apparemment sans histoire et leur réclame une rançon. Un jeune policier, pas plus motivé que cela par le métier de flic, va prendre pourtant l'affaire à cœur et tomber dans le piège du kidnappeur, à savoir choisir une option dangereuse en s'investissant trop, bien trop même, jusqu'à flancher commettre l'irréparable. Un roman glaçant, mais à la fois tellement emballant. Autre roman, Le journal d'Edith, ou la mythomanie érigée au niveau du grand art. Un récit troublant, presque accablant, mais à ne pas manquer. L'œuvre de notre texane est dense, fournie. Quelques romans emblématiques ont été énumérés et ne peuvent qu'être étayés par une lecture, comme par exemple un extrait de La rançon du chien. Lecture. Greta montra la lettre à Head dès qu'il entra. Je n'ai pas pu m'empêcher de l'ouvrir, Head, parce que je savais qu'elle était de se cingler. L'enveloppe était adressée à Mr. Edwards Reynolds, comme d'habitude. C'était la troisième lettre. Greta l'avait appelée à son bureau, mais n'avait pas voulu la lui lire par téléphone. La lettre, écrite en caractère d'imprimerie, au stylo à billes, disait « Monsieur ou cher monsieur, je suppose que vous êtes plutôt content de vous. Les gens de votre espèce me dégoûtent, et pas seulement moi, mais un tas d'autres personnes en ce bas monde. Vous êtes prétentieux, vous vous croyez indépendant, supérieur aux autres, vous vous croyez. Avec votre appartement de luxe et votre chien snobinard, vous n'êtes qu'une petite machine écœurante et rien d'autre. Vos jours sont comptés. Quel droit avez-vous d'être supérieur ? Ô Seigneur, fit Ed, qui adressa à sa femme un sourire incertain avant de lui rendre la lettre et l'enveloppe. Comme Greta ne faisait pas un geste pour les prendre, il les posa sur le petit piano à queue qui se trouvait à sa gauche. « Bonjour Lisa, comment va ? » ajouta-t-il en se penchant enfin pour prendre les deux pattes du caniche noir qui dansait autour de lui. Greta ôta l'enveloppe et la lettre du piano, comme si elle craignait que leur contact ne souillât l'instrument. « Tu ne crois pas qu'on devrait prévenir la police ? » ?»« Non, franchement, non, ma chérie. Et ne t'inquiète donc pas. » Ces gens-là se défoulent en écrivant des lettres, tout simplement. Ils sont exaspérants, mais en fait, ils ne sont pas vraiment dangereux. Ed accrocha son pardessus au porte-manteau, puis alla se laver les mains dans la salle de bain. Il rentrait à l'instant du bureau et, tout en laissant couler l'eau sur ses mains pour rincer le savon, il pensait « Je me débarrasse de la crasse du métro, de celle aussi de cette foutue lettre. Qui donc écrivait ces lettres ? Quelqu'un du quartier, probablement. » Deux semaines auparavant, Ed avait demandé à George, un des portiers de l'immeuble, si un inconnu s'était enquis de son nom, s'il avait vu quelqu'un de bizarre, homme ou femme, traîner à proximité, et George avait répondu par la négative. Ed était sûr que George avait posé la même question aux autres portiers. Était-ce quelqu'un du bureau ? Inconcevable, pensait Ed. Et pourtant, on ne savait jamais, n'est-ce pas ? Un corbeau qui vous persécute de lettres anonymes n'est pas forcément quelqu'un qui vous dévisage avec insistance, qui est manifestement votre ennemi. Par ailleurs, les lettres d'X semblaient émaner d'un esprit authentiquement borné, sans rapport avec qui que ce soit chez Siedi. Même parmi l'équipe de nettoyage, les lettres irritaient Head, mais elles terrifiaient Greta, et Head ne voulait pas trop montrer son irritabilité, de peur d'augmenter ses craintes. Peut-être d'ailleurs avait-il un peu peur lui aussi. Quelqu'un l'avait choisi pour lui écrire. Ou bien était-il vraiment le seul à recevoir ses lettres,
D'autres personnes du quartier étaient-elles aussi embêtées que lui? Voilà, pour l'instant, lecture. En 1987, Patricia Smith a produit un traité intitulé « L'art du suspense », sur lequel je m'étais jeté. Dans ce traité de suspense, Patricia Smith, en se basant sur ses romans, fournissait généreusement ses trucs, ses recettes, pour bâtir un récit prenant, pour créer, bien sûr, un bon suspense. Elle reconnaissait que beaucoup de ses personnages étaient des psychopathes, mais, s'adressant aux apprentis romanciers, elle leur disait que les psychopathes ne seraient pas éternels et qu'il n'était pas plus mal de les abandonner un peu. Une gageure, sans doute, pour une reine du polar dit psychanalytique. Mais il est vrai que Highsmith possédait plus d'un tour entre les touches de sa vieille machine à écrire et qu'elle n'avait pas besoin de personnages risquant de devenir à la longue des caricatures d'eux-mêmes. Highsmith était capable de donner dans la mesure, le subtil, de faire preuve tout simplement d'un talent qui lui était propre.
Eh bien, merci Patrick. On entendra une nouvelle chronique tout à l'heure. Maintenant, je me tourne vers Hervé Leroy. Bonjour Hervé.
Bonjour Christophe.
Alors, on te reçoit aujourd'hui pour « Ces gens du Nord qui ont fait l'histoire » publié chez Le Papillon Rouge. Et donc, c'est un ouvrage qui est sorti en avril dernier et qui présente 50 hommes, 50 femmes, 50 hommes et femmes du Nord et du Pas-de-Calais.
Oui, c'est ça, oui. C'est un petit peu la grande histoire et la petite histoire de la région au travers 50 personnalités qui ont forgé notre histoire et ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui, et donc, chez Le Papillon Rouge, éditeur, quelques mots peut-être sur cette maison d'édition avant de commencer?
Alors, avec Le Papillon Rouge, éditeur, j'ai déjà produit deux
ouais,
ouvrages,
tout à fait, oui.
Histoire vraie en Nord-Pas-de-Calais, et un autre ouvrage qui s'appelle Femmes d'exception en Nord-Pas-de-Calais, qui est consacré aux femmes qui ont marqué l'histoire de la région. C'est un éditeur qui travaille à Villeauvérac, exactement, c'est entre Sète et Montpellier, et c'est un éditeur qui s'intéresse beaucoup au patrimoine, à l'histoire des régions, et donc j'ai produit plusieurs livres avec lui, et Les gens du Nord qui ont fait l'histoire, c'est un petit peu, pas la synthèse, mais c'est un peu l'aboutissement des deux précédents ouvrages, avec la grande histoire et la petite histoire de la région.
Oui, donc le Nord, le Pas-de-Calais, c'est vraiment, je veux dire, c'est ton centre d'intérêt, on voit que tu aimes cette région.
Oh oui, puis c'est une région forte, c'est une région attachante, c'est une région aussi qui est un carrefour, et donc qui a produit toujours des destins exceptionnels. De partout dans le monde, on est venu travailler dans la région, ne serait-ce que dans les mines, bien sûr. En plus, cette région, c'est un carrefour, donc a toujours été en première ligne. En 14-18, on est sur la ligne de front. En 40, l'occupation est extrêmement sévère. Et tout au long de l'histoire, finalement, cette région est au centre des conflits, des enjeux. Et forcément, ça produit des destins exceptionnels, qu'ils soient hommes ou femmes. Et c'est pour ça, à mon avis, que cette région est extrêmement forte et attachante.
Alors, on va rappeler que tu es journaliste, donc tu as écrit une dizaine d'ouvrages, c'est ça à peu près?
Oui, consacré notamment à des villes, effectivement, également aux éditions Leitmotiv, des villes comme Arras, Saint-Amand-les-Eaux, Roubaix, Tourcoing, Lille.
Et tu es formateur à l'École supérieure de journalisme de Lille.
Toujours, effectivement.
Et tu écris également dans des revues Eulalie.
Oui, de la R2L, de l'Agence régionale des lettres et des livres.
Qui présente la littérature dans la région. Et puis, à l'Estracelle, donc une revue de poésie.
Le bulletin de la Maison de la Poésie Nord-Pas-de-Calais, des Hauts-de-France, exactement.
Voilà. Et donc, tu t'intéresses un peu à tous les sujets, donc la poésie, le sport. Tu as beaucoup écrit aussi sur le sport. Tu étais journaliste sportif, je crois.
Effectivement, j'ai une carrière de journaliste de sport. Et effectivement, dans Les gens du Nord qui ont fait l'histoire, on retrouve quelques sportifs. Raymond Kopa, bien sûr, le premier grand footballeur de l'histoire, le premier ballon d'or de l'histoire, qui est le Zidane de l'époque, hein, qui est le premier à signer au Real de Madrid, et qui sort de Nelemine, hein, de l'émigration polonaise. Son vrai nom, c'est Kopaszewski, et le cingle son nom, Raymond Kopa, qui est véritablement un symbole dans le football. Michel Jazzy et Michel Bernard, l'un est de Oigny, l'autre de Anzin, ils marqueront l'histoire de l'athlétisme. Georges Carpentier, qui est de Lens, premier champion du monde de boxe français. Donc voilà, il y a également quelques sportifs qui sont présents dans les Jambes du Nord qui ont fait l'histoire.
Et alors, comment s'est fait le choix et puis aussi l'ordre de l'apparition de ces... Donc là, c'est l'ordre, tu as choisi un ordre alphabétique.
Oui.
Mais donc voilà, comment s'est fait le choix de...
Alors au niveau du choix, il y a donc quelques sportifs. L'idée c'était d'avoir un peu tous les domaines de l'activité humaine. Donc c'était à la fois d'avoir des hommes politiques qui ont marqué l'histoire, d'avoir des militaires, des résistants, mais aussi d'avoir des artistes. Le premier d'entre eux, sans aucun doute, Matisse, qui est né au Cateau Cambrésis, des artistes qui sont très présents à Valenciennes, qu'on appelle à l'époque l'Athènes du Nord, où sont nés des gens comme Antoine Watteau, Jean-Baptiste Carpeau, d'avoir des musiciens, Georges Delru à Roubaix, qui a composé la musique du film Le Dernier Métro de François Truffaut, qui est véritablement le compositeur de la Nouvelle Vague, d'avoir des femmes, d'avoir également toutes les sensibilités politiques au travers de l'ouvrage, d'avoir à la fois le général de Gaulle qui est né à Lille, rue Princesse, mais d'avoir aussi Maurice Thorez, le secrétaire général du Parti communiste, né à Noyelles-Godault et qui est déterminant en 46 avec le général de Gaulle d'ailleurs, lorsqu'est lancée la bataille du charbon. Et on peut considérer que ce sont les nordistes, le bassin minier, les mineurs qui ont reconstruit la France à ce moment-là. Donc voilà, c'était un petit peu d'avoir tout cet éventail-là.
Ouais, un peu,
et ça. Puis aussi d'avoir la grande et la petite histoire aussi, avec des choses moins connues. Exemple, l'inventeur du bikini, personne ne le sait, mais c'est un Lillois qui s'appelle Louis Réard. Le naturisme est né dans les fossés du fort de Seclin dans les années 1920. Les créateurs de la Fédération internationale du naturisme, ce sont des Lillois, le couple Lecoq. C'était un petit peu c'est le créateur de la deux chevaux. Qui est de Saint-le-Noble, là. Donc voilà, c'était d'avoir à la fois des choses connues, revisitées, et puis de découvrir l'importance des gens du Nord dans ce qui fait la vie et la société d'aujourd'hui.
Et puis ce qui m'a frappé aussi, c'est que il y a beaucoup d'humanistes aussi dans ce que tu présentes. Hein. On va en reparler, mais... comme on est ici en Artois, peut-être quelques mots de Mao d'Artois, donc, qui était comtesse d'Artois et de Bourgogne. Et on avait beaucoup d'a priori sur elle, peut-être parce que c'était une femme.
Oui. Et ne serait-ce d'ailleurs qu'au travers les romans, ne serait-ce qu'au travers Maurice Druon et Les Rois Maudits, et la fameuse série à la télévision, où le rôle de Mao d'Artois est interprété par Jeanne Moreau. Mao d'Artois qui, au travers les romans de Druon, qui au travers la série des Rois Maudits, est présentée comme une reine machiavélique, comme une empoisonneuse, et en réalité, quand on fouille, Mao d'Artois, en fait, c'est surtout quelqu'un qui arrive au pouvoir très jeune, parce que son père et son frère sont décédés au combat, sont morts en combat. Et dans ce monde d'hommes, elle est obligée effectivement de se battre pour imposer son pouvoir. Il y a son neveu Robert d'Artois qui agite toujours la révolte des seigneurs féodaux face à elle. Et en réalité, Mao D'Artois est quelqu'un qui aura beaucoup travaillé pour la région, pour l'Artois, quelqu'un qui a une action importante dans le mécénat pour les arts, qui défend les artistes, qui créera également de nombreuses œuvres de charité, de nombreuses chartreuses, le Val Saint-Esprit, à Guenay, enfin qui marquera véritablement le paysage de la région, un paysage qu'on peut encore découvrir aujourd'hui. Et son château essentiel était à Hesdin, qui était un haut lieu. On venait de partout visiter le château d'Hesdin, qui était assez somptueux, notamment au travers le parc où elle avait développé tout un jeu d'eau, de bassins et d'automates. Et on venait de partout voir le château de Mao D'Artois à Hesdin.
Et alors, c'était pas... Bon, à l'époque, on ne parlait pas de féminisme, mais... quand même, elle s'est battue aussi pour la cause des femmes, notamment contre l'exclusion des femmes dans la vie politique, par exemple.
Bien sûr. Et en fait, dans la difficulté qu'elle a de conserver le pouvoir, il y a véritablement ce rapport-là. À l'époque, là, dans la loi d'Artois, effectivement, il n'y avait pas de priorité masculine, mais n'empêche que son neveu, Robert d'Artois, a beaucoup effectivement agité le pouvoir masculin pour contester le pouvoir de Mao.
Et une des personnes qui ont de l'Artois qui est citée dans les livres, c'est comme la très bête. Donc là, ça nous ramène encore beaucoup plus en arrière dans le temps, mais donc c'est à l'époque de Vercingétorix,
c'est de Jules César. Effectivement, le livre part au niveau chronologique, enfin au niveau de l'histoire, du temps, de comme la trébate jusqu'au personnage un peu plus contemporain, comme Raymond Devos, que j'ai eu la chance de rencontrer comme journaliste, ou Pierre Mauroy, ou Roger Salengros. Et donc, comme la trébate est peut-être, le terme résistant est peut-être pas approprié, mais c'est en tout cas le premier qui se révolte contre le pouvoir de Jules César. Et
les Atrébates, c'est un peuple celte. Hein.
Voilà, c'est ça. Effectivement, c'est Atrébates, d'où le nom d'Arras, hein, de la Rajoie. Et comme est le premier à se rebeller contre le pouvoir de Jules César, il mobilise des troupes en Artois pour se porter au secours de Vercingétorix à Jargovie. Malheureusement, c'est une défaite, mais il revient dans la région et continue à résister et finalement partira en exil en Grande-Bretagne.
Donc il y a, tu l'as dit, hein, des personnalités de tous les bords, hein, de tous les domaines. Et donc il y a des personnages historiques, politiques, et puis aussi des scientifiques. Et tout près d'ici, justement, il y a, ça a donné son nom à la faculté des. Il a donné son nom à la faculté des sciences de Lens, la faculté Jean Perrin. Donc c'est Jean Perrin qui est de Lille. Hein,
mais, tout à fait. Jean Perrin est lillois. Il est né à Lille. Il a donné son nom au lycée à Lambersart, donc à Lens également. C'est quelqu'un de méconnu et pourtant qui a une profonde action au niveau de la science. Il vérifie la théorie de l'atome. Il est prix Nobel. Prix Nobel de
1926.
Et c'est quelqu'un qui, au-delà de la recherche scientifique, est aussi un humaniste. C'est quelqu'un qui croit profondément que, au travers de la science, il y a un progrès de l'humanité. C'est quelqu'un aussi qui se pose les questions de l'éthique de la science. C'est quelqu'un qui est considéré comme le créateur du CNRS. Et donc, c'est quelqu'un d'extrêmement important. Un peu méconnu aujourd'hui, et je pense que c'est peut-être aussi l'intérêt de l'ouvrage, c'est que on connaît les gens par des noms de rue, par des noms de plaques. Et puis, c'est bien aussi de savoir qui sont ces gens, parce qu'ils sont constitutifs de ce que nous sommes aujourd'hui.
Oui, voilà, parce que moi, je passe souvent de ce côté-là, hein, du côté de la faculté Jean Perrin, mais je ne savais pas qui était Jean Perrin. Et donc, bah, oui, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc, c'est un humaniste. Hein, il a milité à la Ligue des droits de l'homme.
Oui, effectivement.
Il a défendu Dreyfus. Et donc, voilà, donc c'est un scientifique. Et d'autres scientifiques aussi qui ont œuvré pour le bien commun, c'est Joseph Caventou.
Oui. Qui est de
pharmacien
de Saint-Omer.
De Saint-Omer.
Joseph Caventou, qui est donc son père est déjà pharmacien. Il prend dans la suite, il part travailler sur Paris et il aura un rôle extrêmement important puisqu'il découvre la quinine. La quinine qui permettra de soigner le paludisme. Et donc, on peut considérer que c'est un bienfaiteur de l'humanité, grâce à Caventou, des millions de morts, sans doute, ont été évités de par le monde. Et là également, il y a le côté humaniste, toujours, des gens du Nord, sans aucun doute. C'est-à-dire que le brevet, il ne l'exploite pas, il le laisse libre parce que les enjeux sont tellement importants pour soigner les gens que il laisse toute liberté par rapport à son invention et par rapport au brevet.
Très bien. Et donc des scientifiques et puis aussi des écrivains. Alors tout le monde connaît ici Marguerite Yourcenar. Hein,
oui, la première femme élue à l'Académie française.
En 81,
qui avait dû subir un machisme extraordinaire à l'époque, et notamment de certains académiciens qui ont eu des déclarations à l'époque qui ne sont pas très glorieuses pour eux. Sans citer de nom, un certain académicien avait dit « C'est déjà très difficile de se voir vieillir entre nous les hommes ». Comment fera-t-on avec une femme ? Le comble du machisme. Marguerite Yourcenar était au-dessus de toutes ces mesquineries. Et ben effectivement, elle a ouvert la voie à de nombreuses femmes qui sont aujourd'hui à l'Académie française. Mmh. Quelques semaines avant son entrée à l'Académie, elle était revenue dans la région, sur les pentes du Mont Noir, qui est le lieu de son enfance, à Saint-Jean-Capelle, près de Bayel. Et elle avait retrouvé avec beaucoup de plaisir ces lieux de son enfance qui sont aujourd'hui une villa départementale d'écrivains.
Oui, ouais. Pas très loin du village du livre.
D'Esquelbecq. Tout à fait.
Et puis, c'est moins connu, moi je ne savais pas, mais Michel Butor est de Mont-Saint-Barœul.
Alors, oui, j'ai une histoire avec Michel Butor. C'était à l'époque où j'étais journaliste pour La Voix du Nord. J'ai eu la chance de passer une journée entière à Lucinge chez Michel Butor avant qu'il ne décède il y a quelques années. Et Michel Butor est né à Mont-Saint-Barœul. Son père était cheminot. Son père travaillait donc à la gare de Lille et Michel Butor est né dans des maisons, de belles maisons bourgeoises, une belle maison bourgeoise à Mont-Saint-Barœul. Et à l'époque où je l'avais rencontré, en 2000, il ne connaissait pas le lieu de sa maison natale. Et c'est en discutant avec lui qu'il a commencé à s'intéresser à ses origines lilloises et nordistes. Et une association à Mont-Saint-Barœul a retrouvé sa maison natale. Michel Butor est venu inaugurer une plaque sur cette maison natale. Il est revenu plusieurs fois dans la région. Et c'est vrai que c'est un écrivain extrêmement important, hein, le père du nouveau roman, bien sûr, avec la modification, mais qui a aussi une œuvre extrêmement prolifique. Quelque part, peut-être, on pourrait le comparer à Victor Hugo, peut-être, dans le côté prolixe de son œuvre et la puissance de son œuvre.
Et puis, On va citer aussi Martha Desrumaux de Comines,
oui.
Une ouvrière une résistante, hein, dont le nom a été cité pour le Panthéon.
Une association où aujourd'hui les amis de Martha Desrumaux luttent toujours pour l'entrée de Martha Desrumaux au Panthéon. Martha Desrumaux, qui est la seule femme présente lors de la signature des accords de 1936 à Matignon, pendant le Front populaire. Et Martha Desrumaux, c'est quelqu'un qui rentre à l'usine, elle ne sait ni lire ni écrire. Lorsqu'elle gagne sa première grève, elle ne sait pas comment elle va lire l'accord. Extrêmement compliqué. Toute la nuit, elle réfléchit. Le lendemain matin, elle a une idée de génie. Elle dit au comptable de l'entreprise, lisez-le vous-même, comme ça, on sera sûr, devant tout le monde, comme ça, on sera sûr qu'il n'y a pas d'entourloupe. Elle s'en sort comme ça, elle apprend à lire, elle apprend à écrire, elle va au cours du soir, elle est formée par le Parti communiste auquel elle appartient, elle devient numéro 2, numéro 3 du Parti communiste dans La vie est à nous de Jean Renoir. Elle joue son propre rôle aux côtés de Duclos, au contraire des grands personnages du Parti communiste. Elle est déportée à Ravensbrück. Elle est déportée à Ravensbrück où, à l'intérieur du camp de concentration, elle organise encore une certaine forme de résistance, de solidarité. Et finalement, elle revient de Ravensbrück et elle termine sa vie où elle est conseillère municipale à Lille et toujours en luttant pour la cause sociale et pour aussi le droit des femmes.
Ouais. Voilà, non, on pourra pas parler de tout le monde, mais peut-être quelques mots pour terminer d'Eugène François Vidocq, qui lui a une histoire extraordinaire et qui a inspiré la littérature.
Oui, alors il y a deux grands personnages à Arras. Il y a Robespierre, bien sûr. Il y a Robespierre. Et puis, on le sait peu, il y a Vidocq. Vidocq, dont les parents tenaient une boulangerie à Arras. Une boulangerie près du centre, dont on connaît toujours la situation aujourd'hui. Le premier méfait que connaît Vidocq, c'est adolescent, il pique dans la caisse de ses parents, dans la caisse de la boulangerie. Et c'est vrai que Vidocq donc aura une vie très romanesque, une vie de truand des grands chemins, de bandit des grands chemins, mais en fait, quand on se rend compte, il ne tue jamais personne, il y a aucune violence, et en fait, il est surtout connu pour s'évader de tous les bagnes possibles. Partout là où il passe, il réussit à s'évader. Sa dernière évasion, c'est de la prison de Douai, là où est le palais de justice actuellement, où, depuis une fenêtre sans barreaux du deuxième étage, il plonge dans la scarpe. À l'époque, les gens ne savent pas nager, on s'imagine qu'il est noyé, d'autant plus qu'il laisse partir son chapeau au fil du courant d'un côté, et lui se planque sous le pont de l'autre côté du courant. Et c'est au départ de Douai qu'il repart sur Paris. Pardon. Et là, il aura un dessein extraordinaire, et en négociant avec le préfet de police, il deviendra un des premiers flics de France, et on peut le considérer quelque part comme le créateur des renseignements généraux. Et c'est vrai qu'il a inspiré énormément d'écrivains, Victor Hugo, Balzac, voilà.
Dumas. Mmh. Très bien. Et donc voilà, bien, merci beaucoup Hervé.
Merci beaucoup Christophe.
Peut-être d'autres projets d'écriture dans les mois à venir.
Oui, des projets d'écriture toujours autour de la région et peut-être notamment de la région au travers de la peinture. Un livre autour de la peinture et des représentations de la région Nord-Pas-de-Calais au travers de la peinture et au cours des siècles.
Très bien, mais on surveillera ça. Bonne journée, merci.
Merci à vous.
Et donc maintenant, avant de retrouver Patrick, on va dire quelques mots d'un festival, le festival de Monsieur le Comte et la Fabulerie, Donc, on avait déjà reçu dans Monsieur le Comte et la Fabulerie, c'est une maison d'édition associative. Donc, ils organisent leur premier festival. Et c'est le dimanche 17 novembre. Et ça a lieu au château de Bernicourt, à Roust-Varandin, près de Douai. Donc, il y a de nombreux auteurs, des illustrateurs, des illustratrices, et des spectacles, des expositions. Je vais citer parmi les personnes qui sont déjà venues ici, parce que je ne pourrais pas citer tout le monde, mais il y a déjà Nathalie Gloria, Gaylord Kemp, est déjà venu ici. Voilà, Valérie Cognier, par exemple. Donc, des spectacles pour les enfants. Voilà, donc ça se passe au château de Bernicourt, à Roust-Varandin. Et pour toutes les informations dans le détail, il y a l'événement sur Facebook. Vous allez sur Monsieur le Comte et la Fabulerie et vous retrouverez toutes les informations. Avant de retrouver Patrick, eh bien, on va faire un petit tour dans le sud avec Judith Aragonès qui vous fait une présentation générale de la Catalogne vers sa chronique d'El Sud. Je reprends à l'antenne, il y a un petit souci technique. On va peut-être passer un petit moment, ou alors on va. Patrick va nous faire sa chronique et on passera la chronique de Judith après. Voilà, et donc Patrick va nous parler d'une autre auteure, une autre autrice, voilà. Qui s'appelle
Catherine Harley. Alors, c'est quelqu'un qui est plus très connu, enfin qu'il a été à une époque, donc eh bien c'est très bien d'en reparler. Alors Catherine Harley, qui est née Pierrette Pernaud Hauté le 30 décembre 1924, elle tient contestablement une place particulière dans l'univers du polar des années 1970-1980. Loin du mouvement néo-polar, par exemple, elle se définit avant tout comme une romancière de suspense, allant même jusqu'à réfuter le terme « polar » pour qualifier ses œuvres. Point d'ambiance commissariat dans ses écrits, mais plutôt des histoires mettant en scène des gens que l'on pourrait qualifier du quotidien. Son premier succès, elle l'obtient en 1953 avec « Tu vas mourir » aux éditions de Noël. Malgré ce succès, son roman « La femme de paille » ne parviendra pas à séduire les éditeurs français. Comme quoi, de tout temps, les dessins de l'édition hexagonale se sont souvent montrés impénétrables, voire mystérieux. La femme de paille, l'histoire d'une personne quelque peu aventurière, qui cherche à rencontrer l'âme sœur par le biais des petites annonces, et qui sera entraînée dans les méandres de la manipulation, sera éditée en Suisse. Il faudra attendre 1972, pour que le roman, par ailleurs à découvrir ou à redécouvrir, soit enfin publié en France dans la collection Suspense de chez Eurédif. Catherine Harley se situe assurément dans la veine des Louis et Thomas, Boileau-Narcejac, voire William Harris, pour la branche anglo-saxonne des maîtres du suspense. Avec le charmant titre de « La baie des trépassés », elle nous offre une œuvre oppressante sur la vengeance la plus machiavélique qui soit, avec une fin qu'il vaut mieux ne pas dévoiler, bien évidemment. Tout est pesé, manipulé dans cette histoire, et l'on oscille entre réel et irréel dans une tension extrême. Catherine Harley n'hésite pas à utiliser les codes d'un vaudeville, oui, mais d'un vaudeville angoissant et macabre pour notre plus grand plaisir. Car que peut-on trouver de plus angoissant que des situations somme toute banales qui dérapent? C'est bien là toute la quintessence de son style et de son approche toute personnelle du roman noir. En 1980, avec la fin des éditions Eurédif, elle sera publiée par la mythique collection du Masque et gardera sa marque de fabrique, se démarquant, comme déjà signalé, de la production et des genres recherchés d'alors. Cela ne l'empêchera pas de mener une carrière internationale non négligeable. Mais à ne pas sacrifier aux modes peut ne pas être sans conséquence, et si elle sut rallier à sa cause un nombre appréciable de lecteurs à ses récits, que certains auraient qualifiés d'immoraux, son succès ne perdura pas et elle tomba dans un oubli que l'on ne peut que regretter au point de tenir à raviver le souvenir de cette romancière tout à fait estimable. À noter encore parmi ses œuvres, L'homme de Cré, à Clochecœur, qui a obtenu le prix du roman d'aventure en 1981, L'ogresse, une femme piégée, mais aussi Le battant et la cloche. Dans ce roman, Catherine Harley dissèque les motivations de ce que l'on appellerait de nos jours un loser, mais un loser qui a de la ressource, au point de se rebiffer, de calculer et de passer à l'acte. Seulement, à trop calculer, on finit par s'embrouiller, et l'inexorable destin risque toujours de se manifester. Pour le moment lecture, et pour bien entrer dans l'univers de Catherine Harley, un extrait de la BD Trépassée sera de bon aloi. Dans son lit, les deux mains sur la bouche pour ne pas crier, elle essaya de localiser le danger. Elle aurait tout donné au monde pour pouvoir allumer, mais il lui aurait fallu tendre le bras au-dessus de sa tête et tâtonner pour rencontrer la poire au-dessus du lit. Tant de choses alors auraient pu se produire avant de réaliser ce tout petit geste. Elle cessa un instant de respirer, ferma les yeux et concentra ses forces pour capter un nouveau bruit. Quelques secondes passèrent et un imperceptible crissement lui rendit intacte sa panique. Alors, pour donner moins de prise à la crainte, elle se recroquevilla en chien de fusil sous les couvertures. Elle essaya dans sa mémoire défaillante de retrouver une formule de prière, mais la peur l'enrobait. La toute petite voix de la raison, au fond d'elle-même, lui disait de se redresser, d'allumer coûte que coûte. Mieux valait faire face au péril. C'était trop affreux de rester là comme une bête tapie dans sa tanière, terrorisée par la voix des chiens. Sa main droite remonta à la tête du lit, hésita un instant, puis saisit la poire, pressa le bouton. La lumière jaillit. Rien. Il n'y avait rien, mais ses yeux ne voyaient que les choses. Pas cet autre visage des objets où réside le mystère et où frémit une vie inconnue dans un autre univers. Elle avait peur. Les larmes inondèrent ses yeux. Victime offerte, toute pétrie d'épouvante, elle trembla au centre de cette chambre, dans ce lit terriblement vulnérable, nue sous sa chemise, avec sa pauvre chair bien vivante, son sang bien chaud qui courait dans ses veines, pour combien de temps encore ? Puis, elle se dit qu'elle cédait à un romanesque facile. Le fait surtout de se savoir seule dans une maison isolée la rendait nerveuse. Aussi loin que remontaient ses souvenirs, elle avait toujours été craintive. Elle n'avait jamais connu la rassurante promiscuité des immeubles citadins, les voisins de palier, ceux de l'étage au-dessus ou au-dessous, les rencontres fortuites dans les escaliers ou les ascenseurs. Elle était née, avait grandi en province, dans de vastes demeures. Voilà un petit aperçu de ce du lard de Catherine Harley, sa façon de mener ses romans, ses ambiances, ses atmosphères. Suspense, et je dis, l'univers de Catherine Harley en est rempli. Et elle s'y plaît, et même s'y complaît. Finalement, les démarches de Patricia Highsmith, la première romancière dont j'ai parlé, et de Catherine Harley sont assez voisines. Il s'agit de deux romancières qui sondent l'âme humaine pour agrémenter leurs intrigues, les étoffer et les rendre terriblement crédibles, car puisant dans le quotidien à ses éventuelles surprises, parfois bonnes, mais peut-être trop souvent mauvaises.
Très bien, merci Patrick. On te retrouve dans 2 mois avec 2 autres auteurs ou autrices. Voilà, merci. On va terminer par la chronique de Judith Aragonès qui nous présente une présentation générale de la Catalogne avec Del Sud.
Nord-est de la péninsule ibérique. Elle est délimitée au nord par les montagnes de Pyrénées, à l'ouest par l'Ebre et à l'est par la mer Méditerranée.
Moi je serai
elle occupe une superficie d'environ 32 000 km². Tu ferais le point le plus élevé est situé sur la pique de Stax. On a le droit de voter. Et parmi elles,
on serait seul au monde.
Le centre de recherche. La Catalogne. La Catalogne se trouve dans la partie nord-est de la péninsule ibérique. Elle est délimitée au nord par les montagnes de Pyrénées, à l'ouest par l'Ebre et à l'est par la mer Méditerranée. Elle occupe une superficie d'environ 32 000 km². Le point le plus élevé est situé sur la pique de Stax, 3 000 mètres, le plus bas au niveau de la mer. Nous sommes 7,5 millions d'habitants, dont environ 5,5 millions ont le droit de voter. Et parmi elles, selon le Centre de recherche sociologique en Espagne, en octobre 2019, 58% sont en faveur de l'indépendance et 80% en faveur d'un référendum sur la question. La Catalogne est divisée administrativement en 4 provinces, Barcelone, Tarragone, Lleida et Gironde, dont leurs capitales sont aussi leurs principales villes, Barcelone, Tarragone, Lleida et Gironde, avec les députations françaises qui les gèrent. Et depuis le statut de 2006, en 8 provinces, la zone métropolitaine de Barcelone, les Hautes-Pyrénées et l'Aran, la région de la Tarragone, la région centrale, la région de Gironde, Ponent, les Terres de l'Ebre et el Penedès. Politiquement, la forme de gouvernement est le parlementarisme, représenté par la Generalitat, l'exécutif, le Parlement de la Catalogne, dont son président légitime est actuellement en exil à Bruxelles, préside le Conseil par la République, tandis que la Généralitat est présidée par Joaquim Torra, Junts per Cat, et Roger Torrent, d'Esquerra Republicana per Catalunya, est à la tête du Parlement. Les symboles nationaux sont le drapeau, la senyera, l'hymne, el cant dels segadors, et la fête nationale se célèbre l'11 de septembre. Topographiquement parlant, la Catalogne est divisée en massifs montagneux des Pyrénées, s'étendant sur environ 200 km, où se trouve le sommet Cadí au Puigmal, culminant à près de 3 000 mètres. le Pré-Pyrénées, la plaine centrale, espace depuis le Pré-Pyrénées jusqu'à la chaîne de montagnes prélittorale, au sud de Lleida et dans les terres de l'intérieur de la province de Barcelone. La chaîne de montagnes prélittorale est la chaîne de montagnes littorale où l'on peut souligner le Côte de Raraf au sud de Barcelone ainsi que la Costa Brava en Gironde. Il convient en particulier de souligner le delta de l'Ebre et son parc naturel situé dans la partie la plus méridionale de la Catalogne. En ce qui concerne le fleuve, le plus important à signaler sont l'Ebre qui délimite la Catalogne à l'ouest, mais également ceux qui traversent Barcelone, le Besòs au nord et le Llobregat au sud. La Catalogne jouit d'un climat alpin au nord, atlantique au bassin de la Garonne et méditerranée sur le reste du territoire, avec de printemps et des hivers doux, mais qui peuvent atteindre 0 degrés sur la côte et moins 12 dans les Pyrénées, avec de précipitations sous forme de neige. En été, les températures peuvent atteindre 35 ou 39 degrés avec une forte humidité et quelques jours de pluie, généralement toute l'année. Ces climats favorisent le vignoble dans la région du Penedès, le riz dans le delta de l'Ebre ou le blé dans les terres de Gironde et de Tarragone. En 2018, le taux de chômage était de 11%, soit 4 points de moins que la moyenne espagnole. Son économie repose à la fois sur l'industrie, le tourisme, l'élevage et l'agriculture ou les services. La situation favorable de la Catalogne s'explique principalement par son expérience très positive de la révolution industrielle, qui s'est surtout concentré sur l'industrie textile. En Catalogne, vous pouvez vous y rendre en avion, aéroport international de Barcelone ou secondaire comme Reus, Gironde ou Lleida, en train, gare TGV de Barcelone, Sens ou de France, et en croisière, le port de Barcelone est parmi les plus importants de la Méditerranée, ou par autoroute à travers la Jonquera reliant la France. Les langues officielles en Catalogne sont au nombre de 3. L'espagnol parlé par le 50%, le catalan parlé par 32% environ, et l'aranais, la langue parlée exclusivement au Val d'Aran par 22% des habitants. Raison pour laquelle ces langues ont besoin d'une permanence de protection et sont utilisées de manière immersive dans les écoles publiques. Certaines des traditions typiques de la Catalogne sont les castellers, tours humains, le danse populaire, le défilé de géants, le patum de Berga, la fête de la Mercè, le concours de force d'artifice de Blanes, le descendance au flambeau de la nuit du 10 septembre, la manifestation du 11 septembre et l'offrande florale à Raphaël Casanova, la fête de Sant Jordi, le concours de tapisserie de fleurs de Gironde ou les calçotades. Toutes ces choses sur la Catalogne, Montserrat, le delta de l'Ebre, le Pyrénées, la Costa Brava, les mines de sel du Cercs, le château de Miravet, Solsona au Montjuïc, le plage de la Costa Daurada, le vignoble du Penedès avec ses domaines viticoles. Et je ne saurais pas dire lequel de ces endroits est mieux ou plus important, car il faut tout voir.
Voilà, donc il faut tout voir, donc préparez vos prochaines vacances en Catalogne. Merci beaucoup à Judith pour sa chronique. Merci à Patrick également pour sa chronique et à notre invité Hervé Leroy. Cette émission se termine, rediffusion ce soir à 20h et mercredi prochain aux mêmes horaires. Et puis le podcast devrait être dispo dans la journée sur le site de Radio Plus, radioplus.fr. Nous on se retrouve dans un mois pour un nouveau numéro de La Vie des Livres. Si vous voulez me retrouver, eh bien c'est juste après pour l'émission Les Mains, c'est Livre. À bientôt ou à tout de suite. Une bonne journée. Au revoir.